Bien, merci beaucoup d'avoir bravé ce ciel si bleu et les trois étages absolument difficiles des salons MOLA pour assister à cette rencontre avec Anne-Lise Roux et Constance Wang. Constance, que je sais très angoissée parce que c'est une première et c'est important pour une illustratrice, ce baptême du feu. Et Anne-Lise Roux autour de ce très joli conte mélancolique, mais peut-être pas si mélancolique que ça, Cristalimbe, aux éditions La Part des Anges, dont on aura certainement l'occasion de parler également. Anne-Lise Roux, on vous connaît auteur de romans, auteur de polars, et maintenant auteur de contes pour enfants. Je suis peut-être pas si sûre que ça ne soit que pour les enfants. Comment est né ce projet d'écriture ?
Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est vrai, le goût, un certain goût pour l'éclectisme. Et puis d'autre part, ça sera peut-être là où nous sommes une assistance relativement restreinte, l'occasion de l'avouer, peut-être une vraie détestation, un souvenir épouvantable autour de Bonne Nuit les Petits, Nounours me traumatisait, j'avais horreur de ces horribles petites marionnettes coiffées au bol avec de la laine sur la tête, le joueur de pipeau, etc. Peut-être que c'est ce qui a pesé au bout d'un moment sur ma conscience. Et qui a fait que, dans mon goût pour explorer un certain nombre de genres, je me suis enfin adonné au conte. Je pense que ce sera, cela dit, une édition vraiment unique, parce que c'est un monde, le monde des enfants, et que ça n'est pas éventuellement mon monde. C'est-à-dire que j'avais envie de donner une forme à ce monde-là, mais peut-être pas de manière réitérée, ou certainement pas, en tout cas, dans une conception selon un fonds de commerce.
Donc vous avez dû garder une certaine distance en écrivant, ou ça a été une véritable plongée dont il a fallu ensuite vous extraire et où vous ne voulez plus retourner ?
Non, je n'ai jamais aucune distance, enfin j'ai pas de distance de cet ordre quand je travaille. C'est-à-dire que bien sûr que l'investissement est toujours complet. Ça n'est pas tant ça que simplement ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le goût d'explorer des genres, mais pas de manière mercantile, c'est-à-dire que cette espèce de dévolution aux enfants a été complexe, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très particulier. Est-ce que ce conte est entièrement pour les enfants, ou en tout cas seulement pour les enfants ? C'est quelque chose qui reste à voir. Mais pas le goût, en tout cas, de penser que je referais ça. C'est toujours agréable aussi de faire une chose en se disant « je la fais une fois ».
Donc cette fois-ci, vous écrivez ou vous rencontrez d'abord Constance et vous menez ce projet ensemble ?
Non, le texte est fait. Le texte, en tout cas, est peut-être même fait depuis très très longtemps. Mais j'ai été troublée par une arrivée dans la salle. Le texte est fait depuis longtemps. J'ai envie d'en faire quelque chose. Il m'a été proposé quelquefois d'en faire quelque chose, mais j'ai pas encore trouvé éventuellement la personne avec laquelle j'ai envie de le faire. Donc ça se passe de la manière suivante. Est-ce qu'on peut dire que je rencontre Constance Wang ? Non, je vois très vaguement sur une cheminée des petites choses qui sont dispersées, et je me dis je vais travailler avec la personne qui a fait ça. Voilà. Ça se passe de manière un peu spectaculairement extravagante peut-être. En même temps, il y a une chose qui s'appelle l'intuition, qui vaut bien toutes les connaissances, et qui fait que quelquefois on a envie de travailler, ou on sait qu'on va travailler avec quelqu'un, alors qu'on l'a peu projeté. Il y a des gens qui font de la musique avec des gens qu'ils ont rencontrés dans la rue, il y a des gens qui proposent une vie professionnelle à des gens qui croisent. Je crois beaucoup à ce genre d'impact très fin et en même temps qui parle autant que des connaissances intellectuelles ou voilà, d'une imprégnation autre.
Alors Constance, c'est le moment où vous allez être mangée. Comment, vous qui êtes donc l'auteur de ce dessin sur la cheminée, comment vous vous êtes approché ou Anne-Lise Roux s'est approchée de vous et comment vous avez vécu ces premières minutes du projet que vous allez mener ensemble par la suite ?
Bah en fait, oui, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon père, puisqu'on a déjeuné ensemble. Et puis, en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ce personnage-là, d'Anne-Lise, qui est quand même un peu assez atypique. Et finalement, on s'est assez bien entendu. Et le projet, finalement, ça s'est déroulé assez naturellement. J'ai accepté et puis j'ai commencé.
Alors c'est votre premier livre, je sais qu'un certain nombre de personnes vous connaissent dans la salle, mais pour ceux qui n'auraient pas le plaisir de vous connaître, parlez-nous un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous en ce moment?
En ce moment, je suis en deuxième année d'art graphique à l'ESSAC Penningen. Et avant, j'avais fait une hypocagne au lycée Montaigne avec l'option art, en fait.
Donc vous étiez déjà sensible au monde des lettres?
Déjà, oui. Les lettres et les arts, oui.
Et l'illustration, c'était une étape que vous aviez envie de franchir ou les choses se sont faites d'elles-mêmes?
En fait, l'illustration, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est plutôt de la BD que je voulais faire. Et l'illustration aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et depuis toute petite, j'aime beaucoup les livres illustrés, les livres pour enfants. Donc. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de faire mon avenir, en fait.
Quelle différence fait-on entre l'illustration et la BD? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans l'exercice?
Disons que la BD, ça se rapprocherait peut-être plus du cinéma. Il faut en permanence, justement, varier les cadrages. Et on a un appui sur le texte, bien sûr, mais il est beaucoup moins important qu'avec l'illustration, en fait. Et l'illustration, d'un autre côté, et c'est un exercice difficile parce qu'il ne faut pas paraphraser le texte. Il faut toujours apporter quelque chose de plus.
Alors, on va parler de ce petit Soum, le héros de Cristalimbe, ce petit garçon qui est enfermé dans sa propre prison, dans ce Cristalimbe, ce pays, cette prison imaginaire. Qui est-il, ce petit garçon, Anne-Lise?
Je ne sais pas, je dirais que c'est un petit garçon lambda. C'était important d'avoir un nom qui soit dans un déterminisme un peu abstrait. Je sais pas vraiment qui il est. C'est surtout un lieu aussi dans lequel on a du mal à se situer un peu. Quand je disais tout à l'heure que j'avais une vraie détestation pour Bonne nuit les petits, c'est tout à fait réel. Je veux pas les charger épouvantablement aujourd'hui. Mais c'est vrai que la littérature pour enfants est éventuellement un peu bétifiante, un peu. Moi, je sais que réellement, ça me faisait peur quand j'étais enfant de, bon. En même temps, après, ça m'empêchait pas de sacrifier un certain nombre de lectures relativement simples, au détriment d'autres choses, comme Le Petit Prince, comme Les Contes du Chat Perché, comme Les Comptines de Desnos, qui étaient des lectures finalement beaucoup moins accessibles, mais qui paradoxalement marquent après d'une manière qui est beaucoup plus profonde. Alors, je crois simplement, pour répondre à votre question, qu'il ne faut pas hésiter à proposer aux enfants des choses qui sont éventuellement d'une teneur assez abstraite. Enfin, je vois pas pourquoi les enfants seraient privés d'abstraction, de conception plus fine qu'une histoire plane, sans aspérité.
En vous lisant, j'ai eu ce sentiment où effectivement je pensais à la littérature pour enfants d'aujourd'hui qu'on peut avoir dans beaucoup de librairies où on est un peu dans le monde des bisounours. Et je repensais aux contes de fées de notre enfance, mais les vrais contes de fées de Perrault, où il y a un univers assez violent. Et finalement, c'est vrai qu'on a l'impression que les enfants ont un imaginaire très bisounours, très rose barbe à papa, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est revenir aussi à la source de ces contes avec plusieurs niveaux de lecture.
Oui, je crois que voilà le fait d'édulcorer exagérément. Vous savez, il y a Bettelheim par exemple qui fait ce merveilleux livre à un moment donné qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui a une façon très intelligente de remonter en effet dans le cœur des Perrault, des Grimm, des et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Marcel Aimé avec les contes du Chat Perché, c'est ce qu'a fait Desnos, c'est-à-dire une façon d'arrêter de penser que l'enfance est un monde édulcoré. On sait quand même tous, on a suffisamment éventuellement de souvenirs tous, pour savoir que c'est une recomposition adulte que de penser que le monde des enfants est quelque chose comme ça, d'un peu éthéré. Le monde des enfants est intrinsèquement violent, tourmenté. Après, on recompose dans l'âge adulte avec cette espèce de filtre un peu distancié autour du bonheur, de l'Éden perdu. A priori, l'équilibre est un Éden qu'on gagne et l'enfance n'est pas un Éden perdu. Donc c'est pas mal non plus de pouvoir proposer enfin quelque chose dans un degré de lecture où les enfants, certes, mais les parents aussi, parce que les parents sont ce médium qui permet souvent l'accession à la lecture, qui permet un abord peut-être un peu moins conventionnel de ce que serait l'enfance.
C'est pour ça, Anne-Lise, que je disais effectivement tout à l'heure, un conte peut-être pas finalement uniquement pour les enfants. On parle quand même d'un état d'esprit de ce petit garçon qui est assez proche de la dépression. C'est une façon d'en parler aussi pour les adultes, parce que c'est un sujet qui reste extrêmement tabou. À votre avis ?
Oui, voilà, on est censé proposer à l'enfance des choses très, très bien léchées, roses. Et en même temps, quand Bettelheim explique que, par exemple, c'est absurde intrinsèquement de modifier la fin des contes, de faire des fins édulcorées, parce que ça n'apprend pas la vie aux enfants... je suis assez d'accord avec ça. On est dans un système d'apprentissage, de formation dans le jeune âge, où on va avoir à être confronté à des choses assez dures. Et pourquoi ne pas, en effet, se servir de la lecture, la lecture étant quand même un mode d'ouverture au monde qui est immense, parce qu'il est intime, parce qu'il est idiomatique, parce qu'il est intérieur, parce que quand on lit, on est tout seul et en même temps, on a une porte ouverte... inimaginable sur le monde extérieur. Et en plus, c'est un monde presque clos, parce qu'on y est seul et en même temps intrinsèquement ouvert, parce qu'on est en lien avec tout. C'est ça quand même, il y a un vrai mystère dans la lecture, il y a une vraie magie. Alors, c'est vrai que c'est intéressant pour un écrivain de se saisir de ce lieu-là pour espérer rentrer dans un processus d'apprentissage qui participerait pas de Bibi à Bobo, donc il a dit à Baba.
Vous avez construit autour de ce petit garçon, Soon, tout un univers de personnages humains, entre guillemets, et personnages aussi animaux. Vous avez essayé de coller au code des contes de fées, parce qu'on retrouve la fée, on retrouve les amis qui vont aider, ou tout ça est venu spontanément?
Non, moi, je sais jamais de coller à quoi que ce soit. C'est éventuellement les choses qui me collent et ça me fait plaisir ou dont je me décolle parce qu'elles me déplaisent. Mais non, je sais pas de coller à des codes. Jamais. En revanche, c'est très amusant de les utiliser et d'y contrevenir, le cas échéant. C'est-à-dire que j'aime bien penser que le petit poussé... Vous savez, il y avait cette chanson de téléphone. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus triste des mamans, le prince charmant a foutu le camp, etc. M'a toujours amusé cette manière un peu distanciée de prendre les contes de fées, où il y a un auteur de BD que Constance et moi aimons bien, qui s'appelle Linda Medley, qui a écrit un recueil assez splendide qui s'appelle Château Latente, Waiting Castle, et s'amuse aussi autour de ça, c'est-à-dire voilà, le prince charmant est pas si charmant que ça, la princesse baille un peu des poils sous les aisselles, enfin il y a tout un tas de dimensions extrêmement étonnantes, le cas échéant, de détournement des codes. Donc c'est toujours amusant de rentrer finalement dans ces intimes mécanismes pour éventuellement les déjouer et donner une dimension ludique. Je crois que les enfants peuvent très bien recevoir ça. Alors évidemment, c'est aussi quelque chose de l'âge adulte, mais la lecture, ça peut être aussi un médium, je le répète, entre l'âge adulte, les parents, les enseignants et les enfants.
Et Madame Dame est une super chouette bonne fée.
Oui, c'est une fée un peu prosaïque, parce qu'elle n'a pas des pouvoirs... si grand que ça, mais enfin, elle règne sur le chiffon à poussière, qui n'en a pas rêvé.
Et la tarte aux pommes.
Et la tarte aux pommes, voilà. Simplement, voilà, un peu d'humour, un peu de drôlerie, un peu de détournement des codes. C'est aussi ça, la poésie.
Donc vous semblez savourer les noms que vous allez donner à ces personnages. On sent un vrai bonheur dans la façon de les nommer, de jouer avec les mots, de jouer avec les sonorités. Madame Dame, Monsieur Cieux, Tirelire, le cochon de la charcuterie.
Oui, vous savez que j'ai hésité autour de Mademoiselle Zelle, parce que c'est Mademoiselle Zelle, figurez-vous que c'était le nom de Matahari, le nom réel de Matahari. Oui, elle s'appelait Mademoiselle Zelle. Bon, donc il aurait pu avoir un personnage supplémentaire, mais j'ai résisté à la tentation. Mais oui, les noms, c'est cette manière de jouer avec les mots. Ben oui, c'est par exemple un des apanages des auteurs que d'être extrêmement sensible à la musique, au son. Moi, je suis très sensible. C'est même pas que je résonne en mots, parce que ça n'a rien d'intellectuel, mais comme les peintres voient les choses en couleur, moi, la musique des lettres, quand Rimbaud racontait dans son poème qu'il y avait une musique qui avait des couleurs dans les voyelles. Moi, oui, je suis sensible à tout ça.
D'ailleurs, il y a une musicalité dans votre écriture, une rythmique qui avance, qui s'accélère, qui ralentit par moments.
J'espère. Enfin, ça s'appelle le style, hein. C'est-à-dire qu'après, voilà, avoir un ton, c'est un plaisir à double tranchant, parce que quand on l'entend, on peut travailler, quand on cesse de l'entendre, on est bloqué.
Ça vous arrive d'être bloqué ?
Oui, oui, ça m'arrive extrêmement souvent. C'est toujours extrêmement douloureux et on a toujours le sentiment que ça passera jamais.
Sur Cristallin, il vous est arrivé de bloquer à plusieurs reprises ?
C'est-à-dire que je l'ai écrit d'une certaine façon il y a 15 ans, quand même. Donc, comme très souvent, je travaille sous forme de pelure d'oignon, c'est-à-dire que des choses sont faites ou sont en esquisse, ou je sais qu'elles seront. Je sais toujours quand les choses seront. Alors après, quand ? C'est compliqué de dire quand, mais il y a une conscience intérieure qui fait que quand les choses vont être, je les sais toujours. Ce livre-là, je savais qu'il existerait. Il aurait pu exister avant, bien avant, mais j'avais pas trouvé qui me fallait, ou j'avais pas envie de le commettre dans une complétude qui serait pas finalement celle-là. Parce que j'aime bien aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aime bien que quand je demande à Constance de travailler avec moi, je ne sais pas qu'elle fait partie du Sérail. Je ne sais pas qu'elle est étudiante en art graphique. C'est important de le souligner parce que ce que je vois d'elle, le lien avec son père évidemment, qui l'a présenté d'une manière qui m'a intéressée, qui m'a questionnée, qui m'a émue, mais aussi... ce trait en devenir. Je suis très intéressée, moi, par les devenirs. Parce que je pense que il y a une fragilité dans le devenir, il y a une innocence, il y a une précarité que j'ai toujours envie d'accompagner. Parce que, voilà, je trouve qu'il y a dans les floraisons inattendues quelque chose qui est tellement plus vibrant que le commun, qu'il faut aussi savoir s'y pencher, les attendre...
Je suppose que ça vous touche, Constance, ce que dit Anne-Lise de vous.
C'est vrai que forcément, c'est flatteur, oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'elle ait cru en moi avant de me connaître et qu'elle ait jamais lâché, en fait. Même quand j'ai eu des périodes de doute, et elle a toujours été rassurante à mon égard. Et ça a été pendant les périodes de doute, d'ailleurs, qu'ont été produites les illustrations les meilleures, parce qu'elle a été là aussi.
Comment réagissez-vous quand vous lisez le conte, quand vous lisez Cristallimbe ?
La première fois, c'est le jeu sur les mots. Toujours, ça m'a beaucoup surprise et ça m'a un peu déconcertée. Et en fait, dans une seconde relecture, j'ai trouvé ça très, très drôle finalement. Ce goût pour les mots, pour les paroles, et puis que j'ai aussi, pour le langage, de jouer avec. Et c'est quelque chose que j'ai aussi et qui m'amuse beaucoup.
Est-ce qu'on joue avec les mots, vous qui êtes sensible aux lettres aussi, comment on joue avec le trait ? Est-ce qu'on peut se permettre des figures de style en dessinant, comme on peut s'en permettre en écrivant ?
Il faut une certaine technique. C'est un exercice difficile de représenter par un dessin concret une idée abstraite, une expression abstraite. C'est ce qui fait le génie des grands dessinateurs. c'est un exercice difficile. C'est pas impossible, mais c'est un exercice difficile.
Quand vous lisez, vous avez des images qui vous apparaissent.
Oui. Pour le petit garçon, il est venu très 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 simplement, très très naturellement.
Et ensuite, pour la gamme de personnages, ça a été un travail ou aussi sont venus assez spontanément ?
Ils sont tous, oui, venus assez rapidement. Simplement, il y a juste la corneille spleen qu'il a fallu retravailler plusieurs fois parce qu'on se demandait si on lui modifiait ça ou ça, ça serait peut-être mieux ou moins bien. Mais ensuite, dans l'ensemble, ils sont tous venus plutôt facilement, en fait, oui.
Ce qui est intéressant quand vous parlez de la corneille spleen, c'est que c'est celle qui est représentée avec le trait le plus épais, alors que les personnages, comme par exemple la Madame Dame, le trait est très fin, très aérien, très, très subtil, alors que cette corneille est dans un trait presque feutre.
Oui, En fait, c'est du feutre. C'est pour ça aussi. Et à vrai dire, c'est-à-dire que les personnages normaux, entre guillemets, qui sont pas dans cette prison, ils sont tous... Enfin, il est heureux. Madame Dame, c'est quelqu'un que j'ai ressenti comme très... très sympathique, très, très gourmand, en fait. Enfin, quand tu parles des bras qui ressemblent à des saucisses de Francfort, c'est vrai qu'on imagine assez vite quelqu'un de très rose, très, très dodieux et de joyeux. Enfin, parce qu'en général, enfin, oui, ce genre de personnages généreux, comme ça, on les imagine toujours avec un sourire extrêmement joyeux. En fait, du coup, c'est vrai que l'aquarelle, d'un autre côté, comme il est question aussi beaucoup dans le livre de la perception des couleurs, puisque le petit garçon ne les perçoit plus, c'était important de jouer sur le fait que les couleurs ramènent à un monde qui est plutôt positif, que tous les personnages, finalement, du monde normal devaient être dans une légèreté plus marquée que les enfants qui se posent souvent beaucoup de questions, qui sont très, très tourmentés et... C'est vrai que le corbeau, c'est le guide, alors il fallait aussi quelque chose de tangible. Et ça s'est imposé aussi avec le plumage du corbeau qui est noir. Alors, forcément, le trait noir est venu assez naturellement.
Ce sont deux exercices différents de jouer avec ce noir et blanc et ce trait noir et ensuite avec la couleur.
Oui, le noir et blanc et la couleur, c'est deux choses complètement différentes. Et ça a été un exercice qui n'a pas été évident parce que je ne suis pas vraiment coloriste à la base. J'ai plus de facilité dans les dessins. Mais ça a été intéressant. L'aquarelle, c'est quelque chose que j'adore, même si parfois c'est difficile. Oui, ça a été vraiment deux exercices différents et assez intéressants.
Est-ce que quand vous avez commencé à dessiner, vous avez repris l'histoire point par point? Et pour ensuite illustrer chronologiquement l'histoire, où vous avez eu des phases où vous dessiniez plus noir et blanc, plus le petit garçon, plus Madame Dame?
Non, à vrai dire, ça a été chronologique, puisque je considère les histoires comme un fil. Et donc, c'est vrai que parfois, ça me paraît bizarre de commencer par le bout du fil et puis de remonter à l'envers, ou de commencer par le bout, le milieu. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai retravaillé sur les images, j'ai travaillé de façon désordonnée, mais quand j'ai préparé toutes les esquisses, je les ai faites dans l'ordre.
Les miens ne sont pas les mêmes.
Comment ?
Tes souvenirs et les miens ne sont pas les mêmes,
Oui, il y a eu des choses... Ouais. Ah, oui, après, en général, comme les images venaient au fur et à mesure du texte, même si je ne les avais pas forcément sur le papier même, en général, elles sont formées dans ma tête de façon chronologique.
Ah oui.
Comment ça se passait le travail entre les deux?
Travaillé beaucoup, toutes les deux, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ce qui me fascine quand je l'écoute. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu une pensée. C'est pas seulement un dessin. Les dessins de Constance, c'est la pensée aussi de Constance sur les dessins, sur cette illustration, sur le texte. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était cette sorte d'interpénétration entre les deux mondes. Moi, je veux dire, avoir un illustrateur qui me copie, qui copie ma propre pensée, ça m'intéresse pas. C'était facile d'accès. C'est pas ça. Ce qui m'intéressait, justement, c'était cette sorte de jeu de ping-pong entre nous deux, le fait qu'elle développe sa pensée sur ce qui est, c'est-à-dire son propre prisme.
Et comment réagit-on en tant qu'auteur quand sa propre pensée justement est confrontée à celle de l'illustrateur dans la définition esthétique des personnages et de cet univers-là? Est-ce qu'il y avait un grand fossé entre ce que vous imaginiez, ce que Constance a imaginé, ou vous êtes arrivé à force de discussion à trouver un univers qui soit commun à vos deux pensées?
Mais au début, c'était très compliqué. C'est vrai que j'avais peur éventuellement. C'est comme quand on est adapté au cinéma et qu'on propose des acteurs. Ça peut être très loin de ce qu'on se représente, peu importe, parce que ce qui compte, c'est comment dans ce jeu à deux voix, il y a l'alchimie qui joue. Moi, ce qui m'intéressait, je ne me disais pas « je veux obtenir telle chose ». Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment elle allait se saisir des choses et en faire son miel, me renvoyer quelque chose qu'a priori je recevrais et modifierais par ma propre pensée. Et c'est dans cet infra entre nous deux qu'on peut dire qu'on a obtenu quelque chose qui nous ressemble à toutes les deux. Voilà.
Qu'est-ce qui vous inspire, Constance, dans le dessin?
Ce que j'aime beaucoup dans le dessin, c'est beaucoup de dessinateurs beaucoup classiques. J'ai un style assez réaliste, donc j'aime beaucoup aussi les... J'ai eu une grosse période manga, mais j'essaie d'arrêter. C'est parce que j'essaie à tout prix de me défaire de ça pour essayer d'avancer moi-même. J'ai reçu beaucoup de plaisir avec les dessinateurs franco-belges. Tout ce qui est franquin, tout ça, c'est ce que je disais quand j'étais petite, en fait.
Et, Madame Dame a un côté très franquin, d'ailleurs.
Ça me fait plaisir. Et puis, après, j'essaie de m'imprégner de ce qu'on me dit, d'aller voir aussi. C'est ce que les professeurs nous ont toujours dit, nourrissez votre ventre graphique. Il y a un dessinateur contemporain qui me fascine, que j'admire énormément, c'est Olivier Ledroit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, fait des très
alors peut-être accords. Pour ceux qui ne le connaissent pas dans la salle, ça serait utile de rappeler
alors,
qui il est.
En fait, c'est un dessinateur qui a fait plusieurs livres illustrés sur le monde des fées. Et aussi deux bandes dessinées d'ailleurs. La première, qui est graphiquement pas très intéressante, qui est les Chroniques de Lune Noire. Et la seconde, alors elle a je suis désolée, le titre est très tarte et très kitsch. Mais l'histoire est beaucoup mieux que, ce que le titre en dit. Elle s'appelle Requiem Chevalier Vampire. Alors voilà, on va dire la fan de Twilight arrive, c'est ça. En fait, pas du tout. C'est
carré sur Twilight.
Non. Oh, quelle horreur.
Bon, ça va, tu me rassures. J'ai peur.
Non, et en fait, c'est. Bon, en fait, le scénario, pas de lui, mais ça propose plus une réflexion sur le temps et la vie, la mort, et puis beaucoup des vices humains, en fait, qui passent en filigrane dans cette histoire. Et un dessin, servi par un dessin magnifique, et toutes les planches de cette BD sont presque comme des tableaux.
Et parce que ce que j'aime bien quand même, c'est qu'elle dit ça. Elle parle donc de chevaliers et vampires, c'est ça.
Mais Requiem, vous oubliez Requiem, Annie.
Oui, Requiem, pardon. Requiem, chevalier, vampire. Elle parle de ça et je suis persuadée qu'elle connaît ça très bien. Mais c'est vrai que par exemple, je me trouve au Louvre en ce téléphone. Je suis devant une toile de Chassériau que j'aime beaucoup et elle connaît ça très bien aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui m'intéresse. Des ponts qui sont des ponts. Elle a une vraie culture du dessin, elle a une vraie connaissance. Et c'était magnifique de m'apercevoir de ça et de pouvoir m'appuyer sur ça pour une mise au monde d'un trait qui est un trait tout nouveau, qui est un trait jeune, puisqu'elle est encore à l'école, mais elle est douée et c'est toujours beau et sensible de voir quelque chose. Sortir de terre sous nos yeux.
Je sais que vous êtes très sensible à l'art, que je vous avais étudié, je crois.
Oui, je suis historienne de l'art, de formation, entre autres, oui.
Et vous n'avez été jamais tentée par le dessin vous-même ?
Je peignais, je me suis arrêtée avec l'entrée en littérature.
Et depuis, rien ?
Non, je suis un peintre raté. Voilà.
Il faut savoir de temps en temps.
Non, mais très souvent, j'ai pu constater que des gens... excelle ou s'adonne à un art quand ils ont été privés d'un autre. C'est Gainsbourg qui voulait être peintre, vous le savez. D'autres amis qui peuvent travailler dans la musique ou chanter qui souhaitent être écrivain. Moi, j'aurais aimé être peintre. Je suis auteur, mais je veux dire, on devient. C'est pas un renoncement. Hein, c'est simplement le déplacement de ce pourquoi on est affûté, peut-être.
D'ailleurs, vous diriez que vous êtes affûté pourquoi ? Et pour exprimer quoi ?
Oh, mais moi, j'écris, je continuerai et je continue d'écrire le même livre, en quelque sorte, c'est-à-dire la réfutation d'un monde âpre, sourd, mercantile. Mes livres ont l'air peut-être très lointains parce que je parcours les genres et que c'est en plus j'aime disposer de mon outil littéraire pour m'emparer de diverses formes, mais quant au fond, vous savez, on poursuit toujours la même licorne.
Et on parle beaucoup de filiation dans vos ouvrages, je pense. Au dernier paru, La solitude de la fleur blanche, le petit garçon qui ne connaît pas son papa. Il semble me souvenir dans d'autres ouvrages que c'est une sensation comme ça. C'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, peut-être, oui. L'exil, la filiation, peut-être, oui.
Et l'exil, d'ailleurs, c'est un exil intérieur que vit ce petit garçon.
Mais l'exil, c'est un thème très puissant, oui.
Et les couleurs, alors ? Quand sont arrivées les couleurs dans ce conte? Parce que fondamentalement, il s'agit de ça. Alors, il y a la couleur dans l'illustration, mais il y a la couleur comme rapport au monde. D'ailleurs, je vois, quand vous êtes arrivée, Annelise, la première réflexion que je me suis faite, c'est « Ah, elle s'est vêtue d'une robe pleine de couleurs.
» Mais ça, c'est parce que je venais dans les grands salons de la librairie.
Vous avez mis votre tenue du dimanche.
Voilà, je suis habillée en dimanche. Non, d'habitude, je suis toujours vêtue de noir, vous croyez? Non, évidemment, les choses sont pas, on peut pas les translations sont pas aussi simples, évidentes. Vous me parlez des couleurs dans ce conte-là, quand sont-elles arrivées? C'était surtout un travail poétique, sur la représentation de ce que peut être la perte du sens, la perte du goût, la perte de l'intérêt, et comment éventuellement, sous quelle forme un peu mystérieuse, on pouvait renouer avec la coloration du monde, avec la gaieté, avec le goût des choses. Voilà, j'ai exploré ça. C'est les explorations littéraires qu'on peut en avoir. Je pense à, j'ai eu une conversation il y a quelque temps avec Charles Juillet, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et qui me disait, on a nos mots pour recolorer le monde. On a, bon, alors après, on a nos métaphores, on a nos. Un écrivain, c'est pas quelqu'un qui a des armes. C'est quelqu'un qui a. Je pense aussi brusquement à Attila Joseph, qui est un auteur que j'ai beaucoup aimé lire, et qui disait en gros que sa seule force et sa seule arme, ça va être, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, c'était sa bonté, sa vulnérabilité. Bon, il va de soi que les écrivains n'ont pas d'armes coercitives, mais on a d'autres défense ou d'autres apports qui peuvent, sans être coercitifs, être, j'espère, efficients.
On dit souvent aussi que la plume peut être une arme de défense, une arme d'attaque.
C'est-à-dire
aussi
la plume de la corneille?
Ah, ça peut être. Je pensais pas à ça. Je pensais à la plume du dessin. Mais et à votre avis?
Je vais ressortir un de mes cours, je suis désolée, cours d'histoire de l'écriture, où on nous a appris qu'effectivement, au 18e, on utilisait des typos qu'on appelle les didones, les didos qui sont en fait avec des déliés et des pleins extrêmement effilés, et qu'on les appelait justement le tranchant de la guillotine, parce qu'elles étaient utilisées par les jacobins. Qu'effectivement, je pense que la lettre peut être assassine. Enfin, elle a été de toute façon, même les auteurs ont montré qu'on pouvait assassiner bien mieux par les mots que par les actes, finalement, en assassinant une réputation, plutôt qu'en assassinant la personne même.
Et par la plume qui dessine, est-ce qu'on peut avoir les mêmes visées?
Ben, Daumier a quand même crucifié pas mal de monde en son temps. et Plantu le fait encore de nos jours, même si c'est peut-être c'est sous couvert d'humour. Et en même temps, je pense qu'effectivement, le dessin et l'écriture se rejoignent sur ce point-là, qu'effectivement, parfois l'image, le mot peut en dire beaucoup plus qu'un acte.
Je voudrais qu'on parle un petit peu aussi, Annelise, de votre éditeur, La Part des Anges, qui est ici présente, éditeur Girondin de Libourne, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez été publié chez Gallimard, vous venez de rejoindre l'écurie Sabine Vespieser. Choisir d'être édité ici, localement, c'est
oui, comment,
un parti
comment je me retrouve avec La Part des Anges? M'écoutez, vraiment par choix. Je connaissais un peu Marie-Christine Moreau, et je connaissais surtout très très bien son travail, puisque j'avais adoré plusieurs choses. Elle avait publié en particulier un magnifique travail autour de Bernard Mansiette. Elle avait fait un album qui reprenait sur la Garonne des textes, qui reprenait un texte de Noir Désir, je crois me rappeler ça. Elle avait fait des textes, alors je veux dire un album absolument merveilleux avec un ami cher qui s'appelle Bernard Plossu, qui est un photographe si délicat, enfin pour lequel j'ai une admiration sans borne. Elle avait fait un album autour d'un peintre que j'aime beaucoup, qu'elle m'avait permis de découvrir, qui s'appelle Cathy Chin. Elle fait un travail qui est un travail difficile, qui est un travail qui n'est pas numériquement, on va dire, ou quant aux chiffres de grande ampleur, c'est pas une éditrice qui promulgue des ouvrages faciles, mais elle fait un travail qui est très très fin. Et voilà, je pouvais me permettre peut-être cette fois-ci de d'opter pour quelque chose qui soit entièrement un choix de reconnaissance de sa qualité, du côté délié de ses ouvrages. On a travaillé en grande intelligence, elle a accompagné le travail de Constance et moi, la main dans la main. Donc, je voudrais profiter d'être ici justement pour saluer le vrai professionnalisme, le vrai courage qu'elle a mis à porter ce texte.
Vous êtes aussi exigeante dans vos lectures que dans votre écriture et dans le choix de vos éditeurs.
Oui, moi je suis. C'est-à-dire que, par exemple, quand tout à l'heure je parle de mon contentement de travailler avec Constance, moi je n'ai pas de complaisance ni de c'est pas parce que c'est gentillé ou c'est pas parce qu'on est dans une forme, c'est pas parce qu'elle est l'innocence n'est pas une valeur en soi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien joli de faire débuter quelqu'un, etc., etc. Elle m'aurait fait quelque chose qui ne me paraissait pas prometteur. Je n'aurais pas poursuivi.
Il y a une chose commune dans vos éditeurs, la part des gens, Sabine Vespieser, il y a une qualité qui est apportée à l'ouvrage en tant que tel, à l'esthétique de l'ouvrage, à la mise en page, à quelque chose de très grande qualité. C'est une chose à laquelle vous êtes sensible aussi.
Mais très, et d'autant que, je déteste le populisme en culturel plus que tout, c'est-à-dire que ma façon d'être dédiée au nombre, vous savez, c'est Peter Handke qui dit que la voie la plus normale, c'est d'offrir le meilleur à la masse. Oui, je suis absolument convaincue par ça. C'est-à-dire que je crois que j'ai horreur de cette idée qu'il faudrait amoindrir pour essayer d'être davantage lu ou se mettre à la portée du bon peuple pour être davantage lu. J'ai horreur de cette idée. Je pense qu'au contraire, il faut toujours proposer le mieux au plus grand nombre. Parce que c'est une pédagogie qui me va, parce que je trouve que c'est socialement quelque chose d'une teneur intellectuelle qui me va, qui correspond à ce que j'ai envie de défendre. Donc oui, et c'est paradoxalement le contraire d'un élitisme social.
Constance, pour vous, cette première aventure littéraire en appelle-t-elle d'autres ?
J'espère. Oui, bien sûr. C'est un travail que je referai avec grand plaisir, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Annelise. Et cette première expérience a été extrêmement intéressante et enrichissante pour moi. À vrai dire, j'ai pas réalisé tout de suite, mais maintenant que je suis là, je me rends compte de la chance qui m'a été offerte, alors que, j'ai juste 20 ans et je suis pas encore sortie de l'école. Et c'est vrai que c'est quand même une chance inespérée, et j'espère bien qu'elle en appellera d'autres.
Oui, parce que Annelise parle à votre sujet d'innocence. Est-ce que vous vous sentez évoluer, grandir dans cette expérience-là? Artistiquement parlant, j'entends.
Hein? Bien sûr, oui. Enfin, je veux dire, toutes les expériences font grandir la personne, même si elle est négative. On y retire toujours quelque chose d'une expérience d'un événement. Il y a toujours quelque chose à tirer, même si on pense que c'est le plus quelque chose de très négatif qui s'est passé. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et effectivement, ça m'apprend aussi à avoir peut-être un peu moins peur, avoir un peu moins peur de l'autre, puisque maintenant mon travail est édité, donc
que vous transformiez l'essai, comme on dirait au rugby.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est que, c'est vrai que ça m'apprend à plus prendre le dessin à la légère. Maintenant, j'ai eu une expérience pro, donc maintenant, ça rigole plus, quoi.
Quand vous vous projetez dans l'avenir, comment vous voyez votre trait et les projets que vous pourriez mener?
Ça, on peut pas se projeter à l'avance. C'est quelque chose qui évolue en permanence. On peut avoir une idée du résultat qu'on aura, mais jamais une image précise. Bergson parlait de ça en parlant des artistes, c'est que il aura effectivement une idée des couleurs qu'il va employer, des traits, mais on saura jamais ce que ça va donner avant d'avoir vu le résultat final. Donc, je préfère me dire que ce qui doit se passer se passera et que je me laisse porter par ce que je fais maintenant et que je verrai bien où le courant me mène.
Bonsoir, chez vous, une jeune femme très cultivée, très curieuse. Vous l'avez dit tout à l'heure, sensible au monde des lettres. Je sais qu'Anne-Lise est une avide de lecture. Est-ce que la lecture, c'est quelque chose d'un fondamental chez vous aussi ?
Oui. Malheureusement, j'aimerais lire un peu plus, mais l'école ne m'en laisse pas toujours trop le temps. Mais c'est... la lecture, c'est une activité extrêmement agréable pour se distraire, tout simplement. Et puis, on en retire toujours des choses intéressantes, amusantes. C'est pour ça qu'effectivement, travailler dans le livre, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il n'y a pas seulement l'image, c'est un peu le problème aussi de ce qu'on nous apprend à l'école, qui est de la communication. Et c'est vrai qu'on n'a plus cette dimension peut-être aussi sensible, littéraire, que j'ai eue en faisant mes études en hypocagne, qui a été une expérience que j'ai trouvée formidable. Voilà.
Anne-Lise, La solitude de la fleur blanche est également... disponible en librairie, il est sorti très récemment. Est-ce que vous arrivez à travailler sur plusieurs projets en même temps, où chacun doit faire sa vie, rester dans une latence et recommencer autre chose ?
Alors déjà, quand j'arrive à travailler, c'est bien. C'est pas toujours le cas.
Vous avez des crises de nonchalance, comme dirait Constance ?
Non, j'ai pas des crises de nonchalance du tout. En ce qui me concerne, j'ai malheureusement des crises de blocage... Vous savez, on a envie de se cogner la tête contre le mur. Réellement, c'est pas toujours simple quand même les périodes de dormance en littérature. Parce que quelquefois, le projet ou le livre tape très violemment la porte, mais sauf que la porte est fermée. Donc ça peut s'appeler, dans une connotation beaucoup moins poétique, je ne sais pas, faire abcès. Enfin, c'est un truc quelquefois âpre. Alors, est-ce que ça m'arrive d'avoir plusieurs projets en même temps ? Oui, absolument. J'ai des choses enfouies. Enfin, je vous le disais tout à l'heure, je travaille sous le principe des pelures d'oignon. Quelquefois, il y a quelque chose que je vais donner en nouvelle ou parce qu'on m'a demandé un texte, je vais donner un morceau en sachant que ce morceau-là est en réalité le ferment ou en tout cas le début de racine ou le rhizome, je sais pas comment le qualifier, d'un livre à venir en développement. Et quelquefois le livre se développe 10 ans après, quelquefois... Donc vous voyez, j'ai des choses comme ça qui sont en train de... Mais après, ce qui décide toujours, c'est la nécessité intérieure. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attelle à un projet, ou qu'est-ce qui fait qu'un livre naît alors qu'un autre est en train de se constituer de manière intime, non visible? C'est toujours une question de nécessité intérieure. À ce moment-là, on se met à travailler. On travaille et c'est le... En quelque sorte, le stylo qui est plus intelligent que la tête.
On se fera un grand plaisir, Anne-Lise, de partager vos nécessités intérieures avec donc Cristallin, paru chez La Part des Anges, avec Constance Wang et bien évidemment La solitude de la fleur blanche chez Vespiezer, chez Gallimard, Ici repose, et autres ouvrages que vous trouverez à l'entrée et dans la librairie Mola. Merci beaucoup, Constance.
Merci à vous.
Vous avez survécu finalement ?
Ça va.
À peine.
Ça va pas trop mal.
Merci beaucoup, Anne-Lise.
Merci beaucoup, Estelle.
Et merci à vous d'avoir été un public attentif.